1, 2, 3, 4, 5, 6.
Salut, c'est Yann et l'émission Le Grand Tout. Vous écoutez Canal B, restez-y. Vous entendrez par exemple aujourd'hui dans cette émission de nouveautés musicales, d'infoculture et d'infoconcert, une rencontre avec l'écrivain Martin Mongin qui a écrit Le Bonnet d'âme, une nouvelle dans ce recueil Reine Noire, des Nouvelles Noires, parution le 7 mai chez Asphalt Edition. C'est le dernier texte et le dernier auteur qu'on reçoit de cette belle anthologie de textes se déroulant dans la capitale bretonne. On verra qu'une pyramide qui se pose esplanade Général de Gaulle, c'est possible. Avant ça, Wait Denim et Rubinsteiner. Après ça, le mercredi, on retrouve d'habitude notre amie Soisy Globaille. Eh bien, elle sera présente aujourd'hui pour Allez, on lit numéro 88, livre jeune public peut-être. Les Périphériques par Jean-Philippe Blondel, paru chez Gallimard Jeunesse dans la collection Scripto. Il sera question de radio, oui. Et puis pour les infoconcerts, je présenterai la soirée du jeudi 21 mai à l'Antipode. La fine fleur de ce qui ferraille le plus en Angleterre en ce moment entre pop, rock un peu noisy et puis électro. Lime Garden, Body Horror et Martial Arts, ce sera le jeudi 21 mai à l'Antipode. On commence directement avec notre disque d'or de la semaine, l'album 13 pour les Américains, White Denim. Un album vraiment qui va dans tous les sens, hein, entre country, groove aussi, pop et puis côté un peu plus rugueux. Tout ça marche très très bien. Alors certains morceaux seront peut-être un peu trop lisses pour certains, certaines d'entre vous, mais le morceau Earth 2, c'est vraiment une merveille d'écriture pop un peu cosmique qui finit dans une sorte d'improvisation jazz un peu étonnante. Earth 2, c'est le titre qui nous aide à débuter Le Grand Tout aujourd'hui. Bonne émission.
Just wanna come more easily.
1 2 3 4 1 5 8 2 7 5 8 9 4 3 1 9 6 6 3 4 9 7 7 1 9 3 9 1 7 5 4 5 4 5 4 5 4 5 8 5 4 4 3 8 7 2.
I'm IPA.
Frédéric Landier, alias Robin Steiner, continue à nous proposer ses obsessions depuis le tout début des années 2000, en 2000 même. Il ne cesse de se balader entre musique électronique, jazz, exotica, tendance un petit peu introspective aussi, et puis grand goût pour Brian Eno. La preuve, l'album qu'il sortait le 18 avril dernier chez Platinum Records était nommé « What Would Brian Eno Have Done ?» Et c'est vraiment une belle réussite entre Kraftwerk, la musique exotique de Martin Denny ou Les Baxter, et puis donc ses obsessions. Pour Brian Eno, vous entendiez à l'instant ce très beau morceau « Numbers Are Words ». Dans la page culture de l'émission Le Grand Tour aujourd'hui, c'est la dernière spéciale Rennes Noire, Nouvelle Noire, une collection de textes se déroulant à Rennes et qui est éditée par Asphalt Edition ce jeudi 7 mai. On parle dans quelques secondes avec Martin Mongin, après qu'il nous aura lu le début de sa nouvelle « Le Bonnet d'âne ».
Dans la nuit du 6 au 7 janvier 2027, sans qu'aucune explication satisfaisante n'ait pu être fournie à ce jour, une gigantesque pyramide de béton, proche quant à ses dimensions de la pyramide de Mykérinos en Égypte, est apparue sur l'esplanade Charles de Gaulle à Rennes. D'après les témoignages recueillis les jours suivants, l'apparition aurait eu lieu entre 3h01 et 3h07. Malheureusement, aucun témoin n'a assisté de ses yeux à ce prodige. La pyramide s'est-elle matérialisée ex nihilo? Est-elle tombée du ciel? A-t-elle été assemblée par des agents extérieurs? Aucun moyen de le savoir. Seule certitude, les témoins, parfois sensiblement avinés, il est vrai, ayant longé ou traversé l'esplanade avant 3h01, ont distraitement noté qu'elle était vide. Ceux l'ayant approchée après 3h07 n'ont pu que constater, dégrisés par le choc, qu'elle était entièrement occupée par l'édifice en question. Aucun signe avant-coureur, pas de sirène, pas de nuages de poussière, pas de tremblement de terre, pas de trompette du jugement. De même, aucune communication post-partum. Dès le moment où la pyramide a été là, c'est comme si elle y avait été depuis toujours. À la suite d'un appel anonyme, une voiture de la police nationale débarque sur les lieux à 3h21. Plusieurs dizaines de badauds, certains en pleurs, d'autres abrutis par l'ivresse, sont rassemblés devant le monument. Sidérés, les deux agents de la brigade de nuit sonnent l'alerte. Laurent Perrachat, le préfet d'Ille-et-Vilaine, est tiré de son sommeil. Une heure plus tard, le périmètre est sécurisé par trois unités de CRS en faction cette nuit-là dans la caserne de Vezin-le-Coquet. L'esplanade, d'abord entourée de rues balises, est rapidement encerclée de barrières de sécurité, puis de hautes clôtures en métal. Quand les Rennaises et les Rennais découvrent l'édifice, au matin du 7 janvier, alors que de lourdes averses de grésil s'abattent sur la ville, l'incrédulité le dispute à la consternation. Sur les premières photos publiées ce jour-là par le site rennesmaville.com, photos rapidement reprises par les médias régionaux, nationaux et internationaux, le bâtiment ressemble à un clocher à pavillon démesuré, écrasant la ville de sa masse grise. À ce moment-là, il ne fait aucun doute pour les habitants qu'il y a une explication simple et rationnelle à la présence, au cœur de leur environnement urbain, de cette anomalie architecturale. Dans les bars, devant les machines à café, certains penchent pour un happening en marge du festival éclaté des tombées de la nuit, d'autres pour une nouvelle provocation du 1% artistique. Il faut attendre la double page consacrée à cet événement dans le Ouest-France du lendemain, et les démentis de la mairie pour que la confusion gagne les foules. Comme le prophétise Pascaline Joubert, présidente du Carré Rennais, l'association des commerçants du centre-ville, ce machin-là va nous porter la poisse.
Martin Mongin nous lisait un extrait de sa nouvelle Le Bonnet d'Âne, qui figure elle aussi dans ce recueil Reine Noire paru chez Asphalt Édition. Bonjour Martin.
Bonjour Yann.
Une nouvelle anarchiste, futuriste, hilarante. C'est une farce avec quand même du mystère, de l'inquiétude et puis une pyramide géante juste à côté de Canal B. Alors voilà, c'est pas en notre honneur qu'elle a été posée là, je pense.
Non mais on pourrait dire ça quand même, c'est aussi une pyramide à la gloire de Canal B, hein, qui le mériterait bien.
Hein. C'est certain. C'est dans la dernière partie, la troisième de ce recueil où l'illusion est reine, que vient cette toute nouvelle-là. Ça termine le recueil en beauté, géré du début à la fin et de manière crescendo, de plus en plus fort, de plus en plus incontrôlable, cette façon de rire-là. C'était voulu, cette réaction-là, chez le lecteur, Martin ?
Oui, l'idée c'était de commencer par vraiment quelque chose bon, de l'ordre du fantastique. Il y a cet édifice qui apparaît comme ça, de manière tout à fait inexplicable, et que finalement la résolution ou les explications, enfin, ou que disons plutôt que l'explication de savoir comment cette pyramide est arrivée, finalement l'histoire elle vient plutôt suivre un peu les Rennaises et les Rennais qui se sont intéressés à ce bâtiment et qui se sont posé la question de savoir qu'est-ce qu'il y avait à l'intérieur.
Alors, j'ai eu un peu l'impression au début de la lecture de me retrouver face à ce qu'on appelait les documents interdits, hein, qui avaient été diffusés sur la 7, qui est la télé rareté, il y a une trentaine d'années, des films retrouvés, un peu des found footage comme ça, ouais, qui montraient des choses complètement inexplicables et qui ne voulaient pas les expliquer, qui juste montraient les choses qui s'étaient passées. Il y a ce côté un petit peu clinique aussi comme ça. Et il a en même temps, ce qui est un grand équilibre quand même.
Moi, j'ai été un peu nourri enfant ou ado avec, je sais pas, il y avait cette émission qui s'appelait Mystère, qui passait à la télévision. Il y avait une sorte de revue qui s'appelait, je crois que c'était Info du Monde, avec comme ça des espèces de faits un peu paranormaux, ça pourrait être le mot, mais en fait c'était des choses, on savait pas si c'était du lard ou du cochon, quoi. C'était aussi peut-être des farces, c'était peut-être de l'ordre de la mystification. Bon, il y avait un peu, on savait pas s'il fallait prendre ça au sérieux ou pas. Et moi j'aimais bien ça nous mettait dans un état où, ben bon, à la fois il fallait prendre, c'était des histoires qu'on nous racontait en fait.
Mine de rien, quand même, on se rend compte assez progressivement que c'est un écrit éminemment politique, hein, que ce Bonnet d'Âne, je trouve, en fait. Alors, je ne veux pas dévoiler le poteau rose ou ce qui se cache à l'intérieur de cette pyramide. S'il s'y cache des choses, peut-être qu'il n'y a rien. Mais tout de même, l'intention est aussi d'appuyer sur quelques défauts de la ville de Rennes, notamment une bétonisation galopante quand même.
Oui, bon, c'est que moi j'ai aussi assisté, voilà, en 20-25 ans de vie rennaise à la transformation, on pourrait dire, des politiques urbaines. Et en effet, bon, voilà, ces édifices, parce qu'il y a aussi quelque chose de réel quand même, hein, à Rennes, des édifices qui sortent de terre comme ça, vraiment comme des champignons en automne, et il suffit qu'on part 3 semaines et on revient de vacances, et là où il y avait un petit square, où il y avait une maison abandonnée, et ben on trouve une espèce espèce d'immeubles qui se ressemblent tous un peu les uns les autres, qui sont tous un peu différents, qui se ressemblent tous les uns les autres, et avec des effets quand même, oui, d'asphyxie, ou bon, voilà, bon, après c'est pas pour lancer le débat, est-ce qu'il y a trop ou pas, mais bon, moi j'ai pu, il y a des moments, me dire, mais est-ce qu'ils vont pas laisser quand même un seul espace vide dans la ville, et la nouvelle, c'était de s'amuser que le dernier espace vide, si on veut, c'est, l'esplanade Charles de Gaulle, pour des raisons qu'elle accueille. Bon, voilà, c'est pas un espace qui est laissé vacant dans le sens où ce serait un terrain vague, quoi. Mais c'était amusant que même ce dernier espace vide là, et ben plof, du jour au lendemain, il y a une énorme pyramide de béton qui l'occupe, quoi.
Vous avez peut-être lu certains ouvrages de Martin Mongin. Il y a eu Francis Rissa en 2019, qui a été une lecture bien agréable pour certains pendant des temps de confinement un an plus tard, parce que c'était quand même un gros volume. Il y a eu par la suite Le Chômeur, Manuel des joueurs, et puis Le Livre des Contes, les trois parus chez les éditions Tusitala, grande fidélité. Comment est-ce qu'on passe de ces grandes sommes, de ces écrits de plusieurs centaines de pages, à 20 pages seulement pour cette nouvelle Le Bonnet d'Âne ? Est-ce que c'est facile de s'adapter à ce petit format-là ?
Bah en tout cas, c'est facile pour moi parce que les trois romans cités là, même si en effet, bon, ils sont d'un nombre de pages conséquent, mais moi, je fabrique les romans à partir de plein d'histoires en fait, qui se retrouvent reliées en fait un peu. D'abord, on ne sait pas trop d'ailleurs. C'est des romans où on nous raconte d'abord une histoire et puis une autre encore. On a l'impression que ça n'a pas de rapport. Tiens, pourquoi est-ce qu'il nous raconte ça? Et en fait, on comprend progressivement qu'il y a quand même des fils un peu souterrains qui les relie, et puis à mesure qu'on avance dans le roman, on commence à comprendre quoi, que tout ça en fait est relié par la même trame. Mais au départ, en tout cas, quand moi j'imagine ces textes là, ces objets là, c'est d'abord plein de petits morceaux en fait. Moi j'aime bien construire des romans comme on fait avec un puzzle quoi, c'est plein de petites pièces dépareillées, et puis il faut trouver le bon agencement qui va faire qu'elles vont résonner les unes avec les autres. Donc ce bonnet d'âne, ça aurait pu être aussi une pièce d'un gros roman, voilà, c'est ça aurait pu, peut-être ce sera d'ailleurs, je sais pas.
Il y a dans ton écriture de goût pour la multiplication des styles et des genres littéraires, et faire se cogner la science-fiction, la romance, la philosophie, le livre d'aventure, tout se mélange quoi.
Oui, ben moi j'ai voulu écrire des romans à partir de moi, mes lectures en fait. Et moi, mes lectures elles sont multiples. Je lis pas que de la science-fiction ou de la fantasy ou de la philo, donc je lis tout ça quoi. Et je trouvais que ça faisait sens que écrire un roman c'est recracher, si on veut, plein de choses qui ont été digérées à partir de tout ce qui a été lu quoi. Donc pour moi ça pouvait pas être autrement, même plutôt que de chouette de dire ah, bon voilà, moi je vais faire carrière dans tel genre en particulier. Bon,
je reviens à cette nouvelle et au plaisir qu'on a à se balader. Alors nous autres, les Rennais, on connaît bien forcément les alentours de l'esplanade du Général de Gaulle. Alors c'est deux places, peut-être pas les endroits les plus sexy de Rennes, la place du Colombier et puis l'esplanade anciennement place du Champ de Mars, on l'appelait comme ça il y a longtemps. Ce qui est très drôle aussi, c'est le fourmillement comme ça de références véritables ou un petit peu transformées. Je pense notamment à la mère de cette ville de Rennes, telle qu'écrite par Martin Mongin. Elle s'appelle Amélie Perrier. Et puis, elle a une aventure extra-conjugale avec un collectionneur d'art qui, lui, s'appelle Roland de Virieux. Alors, même si les noms n'ont pas forcément des sonorités proches des véritables personnes qu'on peut imaginer, on s'amuse quand même beaucoup à transformer la réalité, quoi.
Oui, on pourra dire quand même que toute ressemblance avec des personnages ayant existé est purement fortuite, hein. Évidemment, on peut se cacher derrière ça. Et chacune pourra y trouver les échos ou les visages qu'il le souhaite, quoi.
Mais toute cette somme de petits détails comme ça, est-ce qu'on pourrait imaginer, Martin, que tu puisses écrire un roman où il y a autant de micro-détails comme ça tout le long? Est-ce que ça serait pas un peu fastidieux sur un long format?
Moi, ce qui m'amuse, en fait, c'est d'utiliser ce registre-là, ce style-là, qui est plutôt un style, bon, on est entre l'écriture journalistique, le reportage d'investigation et le rapport de police, si on veut, donc où tout est documenté, voilà, il y a des sources, il y a des, bon, éventuellement j'aurais pu mettre dans mes romans, il peut arriver qu'il y ait beaucoup de notes, même de notes de bas de page. Mais en revanche, il faut, pour que ce soit tenable, en tout cas dans la durée, il faut que ce soit traversé aussi par une sorte de d'intrigue un peu, voilà, plus aventureuse, plus rocambolesque. Et donc là, c'est de s'amuser un peu à venir mettre de l'aventure rocambolesque dans un rapport de police, on pourrait dire, si on veut.
On va faire la pause musicale, la première de cette discussion avec Martin Mongin. Un choix rennais, celui-ci, en tout cas, un musicien qui a passé du temps à Rennes, il n'est pas toujours à Rennes. En quelques mots, pourquoi on écoute Drama King?
Drama King, parce que Drama King, c'est le nouveau projet de Kevin Gourdin, et qu'on a été camarades à l'université de Rennes 1 il y a bien longtemps. Voilà, on a passé pas mal de moments ensemble.
Standing looking back at the days, my innocent way. What have they done to me with their glossy eyes? What have they done to me? Rock and roll lies. Freedom's not a dream, it's a fight, an awakened fight. What have they done to me with their glossy eyes? What have they done to me? Rock and roll lies.
Écoutez à l'instant un titre de Drama King choisi par notre invité aujourd'hui, Martin Mongin, qui contribue à ce beau recueil Reine Noire qui paraît chez Asphalt Edition ce jeudi 7 mai. Et puis il y a une sorte, on dit une release party dans le monde de la musique pour la sortie de ce recueil ce mercredi du côté de l'espace Ouest France, où vous pourrez retrouver toutes celles et tous ceux qu'on a reçus dans le Grand Tout, même ceux qu'on n'a pas reçus. Seuls deux des auteurs de nouvelles n'ont pas pu nous rejoindre, c'est dommage, on n'a pas pu parler avec Makoudou Atolodeni, avec Frédéric Paulin, mais nul doute qu'on le fera une prochaine fois sur d'autres textes qu'ils écriront. Alors on entendait Drama King à l'instant. Il y a un drame qui se joue évidemment pendant l'espace de 6 mois comme ça sur Rennes, mais pas tout de suite, ça sera en 2027, peut-être que ça peut arriver véritablement.
C'est sûr que ça va arriver.
C'est sûr. Martin Mongin nous le dit, une pyramide va apparaître.
C'est une prophétie, c'est pas juste une nouvelle, c'est une prophétie.
Ça va beaucoup plus loin que juste de la littérature, c'est un événement annoncé.
Exactement.
Dès maintenant. Une belle farce, je le disais, très anard, et puis qui montre que BTP et cupidité conduisent à de grands dangers.
Oui, bah moi, ce qui m'amusait aussi avec cette figure ou cet édifice de la pyramide, c'est évidemment qu'on peut pas penser pyramide sans penser trésor.
Et sans penser aussi un peu conspiration, peut-être.
Et sans penser aussi conspiration, évidemment. Et la question, moi, qui m'amusait, c'était de savoir, s'il y a une pyramide qui apparaît comme ça du jour au lendemain sur l'esplanade Charles de Gaulle, c'est qui serait les premiers en fait à être appâtés par le gain comme ça? Et qui seraient les premiers à monter en haut de la pyramide pour essayer d'y faire un trou et pour pouvoir rentrer à l'intérieur, quoi. Et il y a un peu ce jeu-là. Bon, c'est un peu ça, si on veut, le leitmotiv de la nouvelle. C'est qui va être le premier ou qui. Bon, et puis c'est jamais ceux qu'on pensait qui. Ou alors c'est toujours ceux qu'on pensait qui se retrouvent à vouloir être les premiers à prendre le trésor à la place des autres, quoi.
Alors, ce qui est amusant, c'est que évidemment une pyramide, ça éveille comme ça l'appât de la curiosité, du gain potentiel aussi. Ça pourrait faire penser à Indiana Jones, mais c'est plutôt la chouette d'or qu'on convoque pour venir voir ce qui se passe par ici.
Ouais, bah c'est pareil, moi c'est bon. Moi j'avais vraiment l'impression de d'écrire avec tous ceux dont je suis fait, et moi j'ai été fait aussi bien avec cette histoire avec ces histoires d'Indiana Jones, hein, qui est une sorte de figure qui a quand même, bon voilà, nourri mes imaginaires de jeunesse, et cette quête de la chouette d'or qui était cette chasse au trésor à l'échelle de la France, et avec ce livret avec des indices, et puis voilà, ça a mis 30 ans, il y a eu 30 années avant que quelqu'un finisse par trouver la chouette d'or en question. Bon, moi, ça m'a fasciné. Gamin, quoi.
Et certains disaient d'ailleurs, ça a été découvert l'année dernière, hein, ouais. le trésor de cette chouette d'or. Certains disaient que c'était un petit peu truqué, quand même.
Bah, j'ai des hypothèses aussi, moi. Mais bon, voilà, on va pas tomber dans le conspirationnisme. Mais moi, j'ai des hypothèses à ce sujet.
En tout cas, elle termine vraiment de très belle manière ce recueil, hein, cette nouvelle-là. Le bonnet d'âne, alors oui, c'est comme ça qu'on va surnommer cette pyramide.
Oui, ben bon, le bonnet d'âne, bon, à Rennes, hein, quand même, là, c'est cette figure d'âne de Bretagne, j'ai l'impression, qui est quand même une marque, voilà. Et puis bon, la pyramide qui est pointue. Bon, il s'avère que moi, pour de toute autre histoire, c'est pour l'écriture du livre des contes, j'ai passé beaucoup de temps avec les ânes et les ânesses. Donc sans doute que ça a un peu infusé mon esprit. Mais en revoyant des images de pyramide, je me suis dit, ah oui, quand même, il y a aussi un petit côté comme ça. Hein, parce qu'il y a les bonnets d'âne à deux oreilles là, mais il y en avait aussi qui avaient une forme plus pyramidale. Bon, ça collait, quoi. Et puis ça faisait un petit jeu de mots qui ne gâche pas le plaisir.
Des jeux de mots qui abondent quand même dans ce recueil. Moi, en tout cas, le meilleur acronyme que je découvre et que je ne pensais pas être véritable, eh bien oui, c'est le GRIMP. C'est quoi le GRIMP, Martin?
Eh ben, je dirais que le GRIMP, G-R-I-M-P, c'est le groupe de recherche et d'intervention en milieu périlleux. Il s'avère que moi, j'ai passé pas mal d'années à faire de la spéléologie à Rennes avec le groupe spéléologique de Rennes, parmi lequel se trouvaient des gens qui étaient pompiers, qui travaillaient comme pompiers et qui faisaient partie du GRIMP. Voilà, donc c'est des gens qui interviennent quand il y a des accidents en falaise ou dans des précipices, dans des immeubles inaccessibles. Ça.
En tout cas, tout est vrai ou presque dans le bonnet d'âne de Martin Mongin, mais le GRIMP, c'est vrai.
Le GRIMP, c'est vrai.
Ça existe, c'est pas une invention. Alors, si vous avez envie de voir citer enfin dans un texte littéraire l'illustre Kaka, hein, qui a posé des tags un peu partout à Rennes, si vous avez envie qu'enfin on remette à sa juste valeur le bâtiment architectural qui est le bâtiment de la CAF, ben voilà, il est dedans aussi. Et puis, si vous avez envie de rire et puis d'imaginer qu'un futur avec une pyramide à Rennes est possible, moi je vous conseille évidemment cette nouvelle qui figure donc dans Rennes Noire. On va terminer avec Martin Mongin en se projetant peut-être dans quelques mois, parce que j'ai cité les quelques romans que vous pouvez lire. Si vous avez un peu le temps, bah ça tombe bien, l'été arrive, vous aurez le temps de lire ces trois romans.
Mais c'est parfait.
Une nouvelle chose arrive bientôt, un peu plus courte peut-être.
Et voilà, oui, donc moi jusqu'ici c'était des romans un peu fleuves, on va dire, et là il y a une chose plus, plus courte, une sorte de roman plus court, même si il correspond à tout ce qu'on a dit des romans plus conséquents, quoi. Ça joue aussi avec les genres, ça joue avec les registres. Et donc ça s'appelle Aldoraden, et ça sortira au mois d'octobre, toujours aux excellentes éditions Tusitala.
Et on peut imaginer aussi des voyages et de l'aventure avec un nom comme ça ou pas ?
Oui, si, si, ouais.
Parce que j'entends comme ça en écho Eldorado, peut-être dans
Eldorado. Eh ben, tu ne crois pas si bien dire.
Alors, est-ce que forcément, quand on a fait des études à Rennes 1, on aime les mathématiques, les jeux de ce ordre-là ? C'est possible ?
Et oui, c'est plus que possible.
Et le lipo n'est pas forcément très très loin.
Exactement.
Bon, on attendra la sortie de ce prochain écrit par Martin Mongin. Et là, on termine avec un autre choix musical. Je vous rappelle tout de même, je l'ai dit, mais ce mercredi 6 mai à 19h, c'est à l'Espace Ouest France que rencontres et dédicaces avec tous les auteurs autrices des nouvelles de Rennes Noire sont possibles. Je rappelle une dernière fois que c'est paru aux éditions Asphalte. Je remercie Estelle Durand, d'ailleurs, de son aide précieuse pour contacter tous les auteurs et les autrices. Et puis, on termine en musique avec quoi cette fois-ci ? War Amour ?
War Amour. Donc ça, bon, moi je privilégie beaucoup les amis, mais c'est Marceau Boré, un très bon copain tourangeau, et donc je lui fais un petit clin d'œil.
Eh bien, on l'écoute avec cette April Shower. On est juste un petit peu après, c'est giboulé d'avril, c'est pluie d'avril, mais ça marche quand même. Merci beaucoup, Martin.
Merci, Yann.
We tramped the open moorland in the rainy April weather. And came upon the little inn that we'd found together. The landlord gave us toast and tea and stopped to share a joke. And I remember firelight, I remember firelight, I remember firelight, and you read. Remember smoke. We run about amid the grass with all the harbors bending and checking in. Never ending. We wander into the little stream among the river flowers. And I remember willow trees. I remember willow trees. I remember willow trees. And you remember now.
Chronique littérature jeunesse par Soizig Le Bay sur Canal B.
1, 2, 3, 4, 5, 6.
Presque tous les mercredis, on retrouve Soizig Le Bay. Bonjour Soizig.
Bonjour Yann.
Qui nous parle bouquin dans Le Grand Tout aujourd'hui, littérature jeunesse. Allez, on lit Les Périphériques par Jean-Philippe Blondel. C'est chez Gallimard Jeunesse, collection Scripto. Et ça va peut-être vous dire deux, trois choses si vous écoutez Canal B régulièrement.
Ouais, ouais, il y a un lien. Axel, 15 ans, vit dans une cité à 2 km du centre-ville, avec sa mère, son beau-père et sa jeune demi-sœur. Oh, tout va apparemment bien, hein, élève sans problème, sans fulgurance non plus. Il s'applique à rester dans une semi-médiocrité qui le met à l'abri des représailles. Il a des copains, une petite bande, une meute, dit-il, qui se retrouve au bas des immeubles. On rit beaucoup, très fort, on dit rien de perso. Surtout pas ce qui pourrait dévoiler de dérangeant. Et Axel a une vieille blessure, hein, non colmatée, un vieux compte à régler. On s'ennuie beaucoup aussi. Et puis, il faut trouver un stage de seconde dans une entreprise alors que toute la bande a trouvé. Axel, lui, cherche toujours, mollement. Grâce à son beau-père, il arrive à Totem Radio, une radio locale indépendante que seuls les retraités écoutent. Devant ses scores qui s'effondrent, la direction songe à arrêter les frais, à fermer l'antenne. Deux salariés accueillent les bénévoles qui animent l'antenne, chroniques, infos locales, invités, interviews des personnalités de la ville. Et Guy forme Axel au montage des émissions. Et si le premier contact est rugueux, il forme vite un duo. À tel point que Guy propose au garçon un stage rémunéré pour l'été. Ah, ça tombe à pic pour lui, qui va éviter le camping avec sa famille, se retrouver seul dans l'appartement, pouvoir s'ennuyer sans avoir à répondre aux inquiétudes de sa mère. Ça tombe à pic aussi, parce que pour une fois, il se sent à sa place. Il a même une idée pour rebooster, rajeunir les audiences, réveiller la station. Une émission animée par des jeunes qui parleraient d'eux avec leur langage, leurs difficultés, leurs coups de gueule. Guy n'a plus rien à perdre, hein. Alors banco, à la rentrée, Axel aura son émission. Et il faut la préparer sérieusement. Fatoumata n'est pas partie en vacances, elle non plus. Elle travaille dans un centre aéré cet été. Ils se connaissent un peu et se retrouvent au bas de l'immeuble, seuls ados dans la cité. Elle accepte le projet. Elle a la tchatch, elle, hein, le sens de la répartie, et elle n'est pas peureuse. Il y aura aussi Florence, la nièce de l'autre journaliste. Elle, une jeune fille bien comme il faut, elle n'habite pas dans les immeubles. L'expérience l'amuse. Elle aura des préoccupations différentes, une autre voix d'ado. Elle amène Samuel, un copain de son lycée, survivaliste. Lui, il rêve de partir à l'aventure autour du monde. Chacun apporte ses idées et il faut bâtir l'émission ensemble. Et ça marche. Grâce à leur réseau de copains, grâce aux bouches à oreilles, l'émission recrute chaque semaine de nouveaux auditeurs. La bande des quatre apprend le métier sur le tas, faire tourner la parole, se documenter sur le sujet, écouter des podcasts. L'émission s'appelle Les Périphériques, comme eux. À la lisière de la ville où tout se passe, à la lisière de l'âge adulte, à l'heure des choix. Durant une année qui a filé à toute allure, ils ont tenu l'antenne hors sol. Alex a délaissé sa bande de copains, mais son horizon s'ouvre plus largement. Ce roman alterne le récit d'Axel et ensuite les chroniques de chacun des journalistes amateurs, des voix différentes, des sujets de tous les jours. Le récit s'anime, les ados prennent corps. Voici un roman d'apprentissage optimiste, tout en finesse. Jean-Philippe Blondel est un auteur qui a beaucoup publié en jeunesse, toujours des romans au sujet de l'adolescence et des profs. Il est prof dans un lycée dans l'est de la France, je crois. Et il a aussi commencé à publier il y a quelques années pour les adultes et il continue une double carrière donc pour les adultes et pour la jeunesse, où il est particulièrement fin, je trouve.
Merci Soazig pour cette présentation des Périphériques de Jean-Philippe Blondel. Alors s'il y a quelques points communs entre Radio Totem et Canal B, on ne s'adresse pas forcément qu'aux auditeurs retraités. Et si par contre quelques plus jeunes adolescents nous écoutent et ont envie de faire comme Axel, bien oui, qu'ils nous contactent évidemment.
Merci. L'antenne est ouverte.
Et à bientôt.
À bientôt.
Vous l'aurez forcément reconnu, ce titre qui illustrait en musique cette chronique Allez en ligne numéro 88 par Soazig Le Bay, le fameux Roadrunner par Jonathan Richman and the Modern Lovers et ses amours adolescentes pour la radio qu'on écoute sans arrêt quand on la découvre. Ça faisait un peu écho aux aventures d'Axel dans Les Périphériques. Dans la session Info Concert, on ira en Angleterre sans quitter le quartier de la Courrouze le jeudi 21 mai grâce à cette belle soirée proposée par l'Antipode où on écoutera pour la présenter cette soirée Lime Garden, puis Martial Arts et enfin Body Horror tout à l'heure. Je reprends les mots de Gaëtan Nael, programmeur Alter à l'Antipode, puisque c'est ceux qui figurent sur le site antipode-rennes.fr. Body Horror, Lime Garden, Martial Arts, trois groupes qui viennent pour l'un de Londres, pour l'autre de Brighton, pour le troisième de Manchester. C'est un petit peu la cartographie très actuelle du rock britannique, des guitares anguleuses, des rythmiques nerveuses et puis des refrains qui claquent. On écoute pour débuter la découverte le groupe Lime Garden de Brighton. Quatre femmes, écriture frontale, histoire de nuit et puis un anniversaire sans doute sur ce titre qu'on écoute maintenant, le morceau 23 par Lime Garden le 21 mai à l'Antipode.
It's 17, I had the world in my hands, and I'm 23, I just lost it. Something about the fact I'm losing my edge, I'm getting further away from a profit. So just try me on for size. I know I'm getting slightly wide. Don't come for me, not like that, cause I'm coming around. Yeah, it's coming around. At 23, I had the world in my hands, and at 24, I just lost it. Something about the fact I'm further away from when I started out, I'm here for it. So I cry, sleep at night, looking back on all this wasted time. Don't come for me, not like that, cause I'm coming around. Yeah, it's coming around. Yeah, I'm coming around. It's coming around. So just God forbid I let it happen. Watch me decompose while striking a pose. I can feel myself getting overgrown. I can't face it anymore. I don't want you by the door, cause I'm coming. Lost it. But then you think back about how clueless you were and how not being alive is a profit. So I try to breathe at night, holding close the ones that get me high. Don't come for me, not like that, cause I'm coming around. Yeah, it's coming around. Yeah, I'm coming around.
C'était Lime Garden à l'instant, vous les retrouvez le 21 mai à l'Antipode. Au même programme, les musiciens de Manchester. J'aurais pu dire les mancuniens, c'est vrai, je l'ai pas fait. Ah bah si, je viens de le faire. Martial Arts, cinq musiciens qui balancent entre post-punk et art rock. On les écoute avec le morceau Before the Fire au programme de la soirée de l'Antipode le 21 mai.
Bye. was a great fighter in the days before the fire was extinguished and the light dimmed behind his eyes. The new contender forced him to surrender his gun's grip, slipping from the heart of his pride.
C'était Marshall Hartz qui, tout comme Lime Garden et puis Body Horror qu'on va écouter pour terminer cette petite présentation de la soirée du jeudi 21 mai, joueront à l'Antipode. Body Horror, ça balance plutôt dans des ambiances oscillant entre post-punk et musique électronique, pas loin de la rave, aussi bien d'un côté de Prodigy que de l'autre de Birthday Party. Grand écart un peu périlleux, mais sans se casser la gueule. C'est à noter, Body Horror, on les écoute avec le morceau Bad Weather. Toutes les infos autour de cette soirée du jeudi 21 mai avec au programme, je le rappelle, Lime Garden et Body Horror et Marshall Arts à retrouver sur antipode-rennes.fr. C'est la fin du Grand Tour, on se retrouve jeudi pour une dernière émission cette semaine. Vendredi 8 mai oblige, on retrouvera les deux des gars en tout cas de Via Love pour un grand écart entre psyché et musique électronique de danse. Oui, et vous les retrouverez jeudi soir au Melody Maker en concert. On termine donc avec Body Horror. À bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao.